Vous écoutez RTL.
RTL Soir, on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et on fait le monde jusqu'à 20h ce soir encore, comme tous les soirs de la semaine, avec Jean-Luc Manot, par exemple, conseiller en communication. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir par exemple.
par exemple aussi Alexandre Malafaye, tiens, pourquoi pas, président de Sinopia. Bonsoir Alexandre. Didier Testo, fondateur du site La Bourse et la Vie, est à nos côtés aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Isabelle Saporta, le matin et le soir, elle est tout le temps.
Ouais, tout le temps.
Si on parlait de gilets jaunes, ça vous inspire ou pas les gilets jaunes? C'est l'actualité, ça le sera particulièrement demain, depuis le temps qu'on en parle. Les autorités s'attendent à 1500 actions dans tout le pays, sur les routes, les ronds-points, les dépôts de carburant. Édouard Philippe, le Premier ministre, a assuré que la liberté de manifester serait bien sûr respectée, mais que bloquer le pays n'était pas acceptable. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron joue gros dans cette histoire? Isabelle Saporta.
Oh bah oui, enfin, on l'a bien vu là. Enfin, ce qui est assez hallucinant d'ailleurs avec Emmanuel Macron, c'est quand il essaie de faire de la proximité, ça marche jamais. C'est-à-dire qu'il a envoyé au front ce pauvre Édouard Philippe avec sa kyrielle là de mesures chez Madame Martichoux. D'ailleurs, c'était super. On était très contents qu'il soit là. On avait l'impression que les mesures, il les avait un peu sorties du chapeau assez vite. D'ailleurs, le lendemain, on avait le mec du Fioul qui était là à l'antenne d'Yves Calvi en train de dire, eh ben, nous, on a appris en écoutant le Premier ministre qu'il y aurait plus de filière Fioul d'ici 10 ans. On est quand même un peu malheureux de le savoir. Et Macron se retrouve du coup sur le porte-avions pour essayer de nous expliquer qu'il est plus proche des Français. Je ne sais pas quel est le conseiller en com qui lui a dit que ce serait une bonne idée d'aller parler des gilets jaunes sur un porte-avions nucléaire, mais je trouve que c'est une faute de goût totale. Et par ailleurs, bon, ben, ce qui est sur le mouvement, pour rentrer sur le fond, sur le mouvement, moi je ne vois pas effectivement comment une kyrielle de mesures techniciennes réponde à un mécontentement et à des gens qui vous disent, au fond, vous nous traitez mal, vous nous méprisez, regardez-nous. Donc, effectivement, je suis pas très. Je suis un peu inquiète.
Vous pensez, Jean-Luc Manot, par exemple, qu'on craint cette journée du côté de l'Élysée?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Chacun sait que c'est un moment. C'est un moment de crise avec cette fameuse définition de la crise. C'est qu'on sait ce qui ne sera plus, on ne sait pas encore ce que ça sera demain. C'est clair que la manière dont le mouvement, il faut pas l'amplifier, il faut, d'autant plus qu'à force de dire que ça va être énorme, demain on risque d'être amené à relativiser. Mais c'est évidemment une épreuve. C'est d'autant plus une épreuve que, bon, on a dit et répété, à l'évidence, sur la crise du prix de l'essence, le gouvernement n'a pas anticipé. Il n'a pas compris le pays. Il n'a pas compris que c'était quelque chose de particulier. Parce que quand vous êtes dans une situation d'augmentation abusive des poireaux, des tomates, vous pouvez à un moment dire, pendant 3 mois, je vais pas acheter de poireaux et de tomates, on va manger autrement. Et que ça, c'est lié au travail, à la mobilité, et que donc on peut pas le faire. Et que même si vous dites aux gens que vous allez leur donner des chèques, tout ce qui a été annoncé est loin d'être rien. Financièrement, c'est beaucoup. Sauf que c'est une fois peut-être, alors que là, c'est 2 fois par semaine, à coup sûr, qu'on a l'addition et qu'on a cette difficulté. Donc voilà, ils sont dans cette difficulté-là. Et puis, ce mouvement va porter en lui une forme d'extrémisme. Quand je dis extrémisme, c'est... Écoutez, quand vous regardez les mouvements en général, les types, ils demandent quoi quand ils sont justifiés ou pas? Quand ils sont... Moi, j'ai une expérience comme ça très ancienne de président de l'UNEF. Ministre, il pouvait toujours dire, quand vous aviez 100 000 gars dans la rue, il pouvait toujours dire, dites donc, on va lâcher ça. Au fond, on savait que c'était important. Mais enfin, les gars dans la rue, ils continuaient de dire abrogation, rien. On veut gagner, parce que quand on est engagé dans une bataille de ce type, on veut faire 4-0. Pas avoir un match nul à la fin.
Didier Testo.
Moi, j'ai essayé de prendre du recul sur ce dossier des gilets jaunes, parce que c'est pas facile. On est là dans le... C'est vrai que ça va se passer demain. J'ai essayé de chercher qui y avait derrière ce mouvement aussi, parce que c'est quand même important. On a des gilets jaunes sur tous les plateaux. On a des Jacqueline, effectivement, qui a fait sa vidéo, qui a très bien marché, et ensuite des tas de déclarations. Alors, je suis allé chercher, par exemple, vous avez ce fameux site du blocage du 17 novembre, où je fais mon petit travail de journaliste. J'adore Internet, donc j'ai regardé. J'ai cherché, bon, bien sûr, on ne sait pas qui il y a derrière. Hein. On a un site, One and One, c'est une société américaine, donc vous pouvez être propriétaire d'un site sans mettre votre nom, donc c'est le cas. Le site, il est hébergé en Allemagne, bon, à Baden, voilà, dans le Württemberg, l'IP. Voilà, il est hébergé sur plusieurs sites. Donc déjà, première chose que j'ai pu faire. Deuxième chose, quand vous avez des affichages, on parlait de ne pas exagérer ce qui se passe. Bien sûr, il y a un mouvement de fond qui est là, mais quand vous voyez les cartes des gilets jaunes, c'est pareil. Donc vous avez les cartes qui sont présentées par tous les médias, on a de la télé hein, sur RTL maintenant, donc on peut montrer des cartes, c'est ça. Ça, c'est la carte qui est montrée dans tous les journaux, tous les médias montrent ça. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, j'ai été dans le Limousin. Voilà, c'est un endroit que j'aime bien, c'est sympa, Brive-la-Gaillarde. Donc, il y a différents villages. Il y a des gilets jaunes. Mais oui, c'est pas la même chose de dire ça. Ça veut dire qu'effectivement, on est sur 2 millions de personnes qui sont là, qui avec leurs gilets jaunes. Et effectivement, ça, où il y a peut-être un gars qui est là, à cet endroit-là, et qui a mis son gilet jaune. Donc voilà, prendre un petit peu de recul. Après, sur le fond, et par rapport à ce que disait tout à l'heure Isabelle, sur les réponses qui ont été apportées, par rapport au malaise, par rapport à ce côté budget mensuel, et de se dire, voilà, on a un raisonnement d'énarque, c'est encore ça à nouveau. C'est-à-dire qu'on dit, bon alors, il va à Bercy, il dit à Bercy, bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, tu peux rajouter ça, tu rajoutes un peu de ça, un peu de prime. Attention, il y a la prime pour l'hybride, il y a ça. On est sur une réponse comme ça, qui n'est pas la réponse attendue par les gens, parce qu'effectivement, ce qu'ils ont eu, eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'effectivement, bah, tous les mois, c'était plus compliqué de faire le plein pour qu'elle ait une infirmière, n'importe qui se déplace. L'autre chose que je voudrais dire aussi à ceux qui nous écoutent, parce qu'on en parle peu, c'est où on en est sur le prix du pétrole aujourd'hui, avec ces débats, et nous, donc, on va avoir une manifestation contre le prix de l'essence. Donc pareil, j'ai fait des petits graphiques, j'ai usé un peu d'imprimante aujourd'hui. On c'est est à autour de 67 dollars le baril de Brent. 67 dollars, ça dit rien aux gens, c'est le baril. En 2011 et en 2012, on était à 120 dollars. 120 dollars. Donc pour simplifier, on est à peu près au double. On n'a aujourd'hui pas encore de conflit d'envergure très importante entre les États-Unis et l'Iran, par exemple, qui arrivera sans doute un jour. Donc on en est à 60. Et déjà à 60, on a ce ressenti effectivement du côté des gens qui travaillent sur ces taxes. Là, on va parler beaucoup de l'essence. On parlera pas des mutuelles, ce qui va arriver sur, par exemple, les mutuelles santé, qui vont augmenter dans les prochains mois. Et je suis sûr que ça aura beaucoup plus d'impact encore que l'essence. Donc, c'est pas facile de prendre du recul. J'ai essayé d'en prendre de ce côté-là. Mais je pense qu'il faut avoir une vision globale. On est qu'à 62 dollars le baril et c'est déjà très important. Est-ce qu'on n'a pas déjà, il y a quelques mois, il y a quelques années, eu des prix plus importants? Si. On n'a pas eu le même type de réaction. Donc, je pense qu'il n'y a pas que ce phénomène de l'essence. Effectivement, qu'elle y est là, il y a eu un certain nombre de taxes, il y a un mécontentement général. Et je voudrais quand même, parce qu'il y en a peu qui le font défendre Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même Jacques Chirac, qui n'a rien fait pendant son septennat plus quinquennat. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui est arrivé, qui a dit on va faire ci, on va faire ça, un programme libéral. Il ne l'a pas fait. Il y a Hollande qui est arrivé, et puis finalement qui a fait sa présidence normale. Et Hollande, c'est lui qui a fait cette taxation qui aujourd'hui arrive de manière automatique, augmente de manière automatique, ce qui fait qu'effectivement, on arrive, alors qu'on est à 62 dollars, à ceux à 1,55 pour de l'essence.
Voilà. Il a beau, c'est Didier Testo. Hein. Ça va inspirer des commentaires dans un instant, la suite de Refait le Monde. À tout de suite.
RTL Soir, jusqu'à 20h. On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et avec Jean-Luc Manot, Alexandre Malafaye, Didier Testo, Isabelle Saporta. On n'a pas encore entendu Alexandre Malafaye sur le sujet des gilets jaunes, ça m'intéresse. Est-ce que l'Elysée joue gros? Est-ce qu'Emmanuel Macron
Dans toujours de crise, il y a toujours un avant, il y a un pendant, il y a un après. L'avant, on voit bien d'où il vient. La faute originelle d'Emmanuel Macron, c'est de dire j'ai 17% au premier tour des suffrages exprimés et je suis légitime et ça va aller. Bon, c'était un peu fragile comme base pour être aussi ambitieux et peut-être parfois aussi distant. On a vu toutes les fautes qui ont été commises, mais le mal est beaucoup plus profond parce que ça fait 30 ans que globalement les choses se construisent pour en arriver là. Ça fait 30 ans que les gens voient petit à petit un carcan réglementaire, législatif qui encadre leur vie, une pression financière plus importante sur leurs revenus. Donc forcément, il y a un moment donné où, à force de jouer avec les rideaux, les allumettes dans les rideaux, ça craque. Alors maintenant, on est dans le pendant, on va voir où ça nous mène. Est-ce qu'on va le payer cher ou pas? Est-ce que ça va être une crise qui va être un avertissement? Est-ce que ça aura des conséquences? Est-ce que c'est une lame de fond? Oui, mais est-ce qu'elle aura des conséquences dans la durée? On verra. Mais c'est une crise. Et en plus, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas avec qui négocier. Habituellement, il y a des interlocuteurs, il y a des bases, il y a des gens qui sont des représentants, mais comme tout le système dégagiste est passé par là, qu'il n'y a plus de représentants, comment on fait? Et après, il y a l'après. Alors l'après, moi, je vais me concentrer sur l'approche d'Emmanuel Macron en revenant sur le porte-avions. Qui était sans doute pas la meilleure des choses à faire en matière de stratégie de com, mais il n'empêche qu'il a dit un point très important, c'est l'espèce d'autocritique qu'il a fait, tout le monde en a parlé, mais surtout, c'est ce qui suit l'autocritique, c'est sa volonté de changer de méthode. Voilà. Je ne sais pas si c'est encore possible, parce qu'il reste 3 ans et demi, c'est court, il y a des échéances électorales qui vont être extrêmement compliquées, mais si véritablement il a compris que, voilà, on ne peut pas faire de la politique autrement en faisant de la politique as usual, comme avant, mais qu'il fallait véritablement se donner les moyens de faire autrement, peut-être de travailler sur vraiment ce qu'il a porté au pouvoir. Il a été porté au pouvoir quand même par un truc qui s'appelait le renouveau démocratique et une espèce de projet qu'il a plus ou moins co-construit, peut-être moins que plus, mais en tout cas l'impression était là, et de faire avec les Français aussi souvent que possible, d'impliquer l'administration davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'administration ne joue pas forcément le jeu du changement voulu par Emmanuel Macron, il y a des blocages dans tous les sens. Ben voilà, peut-être prendre des décisions un peu brutales pour bousculer l'administration.
Lui, il est bien placé quand même, parce qu'il vient de Bercy.
Ce que j'allais vous dire, c'est que
Bercy.
Moi,
donc
que
les autres ne venaient pas de Bercy, mais quand on comprend le fonctionnement de l'État français, c'est Bercy.
Oui, mais c'est-à-dire
pas l'Élysée.
Il le sait.
Mais donc il sait comment ça marche.
Il sait comment ça marche.
C'est sûr qu'il y en a un qui va dire stop, on arrête. Il y en a toujours un qui bloque le pouvoir politique.
Il y a un niveau de blocage absolument phénoménal au niveau de l'administration française
aujourd'hui. Les technos n'ont jamais été autant au pouvoir que maintenant. Moi, ce que je trouve assez hallucinant avec cette fronde, cette grogne, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une réponse de comptable à chaque fois. Oui. C'est-à-dire que quand on a eu le Premier ministre qui était là chez Elisabeth Martichoux, il était là, effectivement, avec sa besace, en train de sortir patiemment toutes ces mesures, et pas une fois, il s'est projeté dans l'avenir. Pas une fois, il a dit, voilà, le court terme, c'est ça, mais à long terme, en fait, ce qu'on veut, les mecs, c'est plus de ferroviaire, plus de fluvial, parce qu'en fait, tout ça, c'est quand même parti. C'est quand même Macron, le bullshit d'or, c'est de nous dire, au fond, là, vous payez plus cher, mais c'est pour l'écologie. C'est pour que vos enfants qui ont la bronchiolite, demain, ça aille mieux. C'est parce que vous vous rendez pas compte, parce que non seulement vous êtes pauvre, mais en plus vous êtes bête, donc vous vous rendez pas compte que les 48 000 morts, c'est grave. Et que donc, je vous fais payer plus pour votre avenir.
Oui, ça c'est ce qui a été dit.
Sur les 34 voilà. milliards de fiscalité écologique, il y a 7 milliards seulement qui reviennent à l'écologie. Donc ouais. déjà, c'est un bullshit d'or. Donc déjà, je trouve ça dégueulasse, parce que moi, je suis assez écolo. Et donc, si vous voulez, ça, pour répugner, pour détourner les gens de l'écologie, il n'y a pas pire que ça. Mais en plus, il n'y a pas un moment où il nous dit, le Premier ministre, voilà, on fait tout ça, mais dans l'avenir, dans le futur, on va enfin vous proposer un autre projet. Non, là, je me suis retrouvée aussi en débat avec une jeune femme charmante, d'ailleurs, Marie Lebec, députée des Yvelines, La République En Marche, et on lui disait, non mais quand même, il y avait Dupont-Aignan, qui lui disait, enfin quand même, là, la grogne, machin, le truc, et elle sortait sa petite feuille Excel, et elle disait, ah mais là, pour la mesure machin, il y a la mesure T2, la mesure T3, mais attendez, vous avez des gens en face de vous, faites-les rêver, proposez-nous du rêve, proposez-nous quelque chose.
On peut proposer du rêve, mais ce qu'on oublie de dire aussi, ceux qui nous écoutent, c'est qui va payer la prime ceci, la prime cela. Ça va être la même, cette fameuse classe moyenne dont on parle sans arrêt en ce moment, dire oui, c'est la classe moyenne qui est dans la rue, mais c'est la classe moyenne qui paye des impôts. Et celle qui est dans la rue ne paye pas systématiquement des impôts. La classe moyenne qui paye des impôts, qu'est-ce qu'elle va payer? Elle va payer la prime parce que ça va être dans le budget de l'État. Et on arrive aujourd'hui à cette situation quand même pour une raison qui est assez simple, c'est-à-dire que l'État, il n'a plus de moyens. C'est-à-dire que là, tout le monde réclame de l'argent à l'État et on est à 2200 milliards de dettes. Donc on arrive à une période où on dit il en faut encore plus.
Là, deux, trois remarques là-dessus. Je crois moyennement à la théorie, au sauvetage des politiques par le fléchage pour que ça passe dans l'opinion publique. Parce que, après tout, c'est des taxes, ça va dans le budget de l'État, et le budget de l'État est en forte progression sur la transition écologique, etc. Donc ça, c'est fait, premièrement. Deuxièmement, cette orientation politique générale-là, il l'a pas inventée non plus. Il l'a accentuée, mais il l'a pas inventée. On a quand même un bal des faux culs absolument formidable sur les gens qui ont initié ces mesures, ouais. qui ont orienté cette voie, qui, dans le programme à l'élection présidentielle, disait on va faire exactement la même chose pour ce qui est de la mise à égalité entre le gasoil et
l'essence.
Mais
il y avait Mélenchon sur le diesel,
par exemple. C'est Golet Royal.
S'il y a un
bullshit d'or du mensonge, là, il est là, quand même, avec des gens qui viennent nous dire aujourd'hui, mon Dieu, c'est terrible, ils sont en train de faire ce qu'on avait imaginé de faire. Ça va, quoi, quand même.
Non, mais il faut que l'argent aille là où il doit aller, à un moment, c'est pas possible.
Et là, je viens d'être gentil, défendre Macron dans une certaine mesure. Mais pour le reste, il paye une série de fautes qui est pas seulement le gasoil. D'abord, il y a une réalité sociale difficile parce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Et ça, ne pas le respecter, ne pas le comprendre, c'est une faute politique majeure. C'est-à-dire l'histoire que je vais régler le problème avec les premiers de cordée sans penser que si les derniers de cordée, on les laisse en tongs et en short dans la montagne, ils crèvent.
Non mais ça ne marche pas.
Et donc, il faut là-dessus le faire. Il paye beaucoup d'arrogance. Et dans une certaine mesure, je suis d'accord avec ce qui a été dit, que les conseillers en communication qui l'ont dit qu'il fallait le faire sur un porte-avions, ils étaient toujours dans l'idée de l'arrogance.
Oui. Et il y a le bal des focus, c'est vrai. Et moi, j'ai écouté sur RTL Cyprien Sini, qui a fait son travail effectivement de recherche. Ce qu'a fait Macron aujourd'hui, c'est ce qu'il avait dit pour son élection. Donc lui, il est cohérent.
On est dans la passion.
Même si effectivement, on a d'autres choses qui viennent se greffer. Mais lui, il a fait ça, les autres, non.
Vous pourrez toujours essayer d'expliquer, de faire de la pédagogie dans un contexte comme ça, ça ne marche pas. Là, on est dans le chaud de la crise, les gens ne comprennent rien, pour des raisons qui sont évidentes, et qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Mais après, il faudra retrouver un chemin politique.
Faut bien qu'on fasse un peu ça, quand même, non mais c'est un peu notre... Sinon, on crie les uns les autres, quoi. On rentre dans cette passion-là, et on se griffe.
Dans ce temps de passion, les gens ne sont pas réceptifs à des éléments de raison.
D'accord, évidemment.
On refait le monde jusqu'à 20h, restez avec nous.
RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
On refait le monde ce soir avec Isabelle Saporta, avec Didier Testo, avec Alexandre Malafaille et Jean-Luc Manot. J'aimerais qu'on s'intéresse à l'affaire Grégory parce que nous avons vécu aujourd'hui un énième rebondissement. Je ne sais pas combien on en est dans cette histoire, mais bref, c'est le Conseil constitutionnel qui a considéré que la garde à vue de Muriel Boll, au cours de laquelle elle a accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé le petit garçon, n'était pas conforme à la Constitution. À l'époque, on le rappelle, Muriel Boll était âgée de 15 ans et quelques jours, elle s'était rétractée. Et depuis 34 ans, elle affirme que ce témoignage à charge lui a été extorqué par les gendarmes. Désormais donc, c'est à la Cour de cassation de trancher sur l'annulation de cette garde à vue. C'est donc un nouvel épisode. Je voudrais savoir si vous pensez qu'on va un jour connaître la vérité dans cette affaire.
Pas facile de répondre, mais c'est surtout c'est une affaire que voilà, on est enfin pour me concernant, j'étais adolescent à ce moment-là, donc on l'a et on va dire peut-être qu'à la retraite on aura encore un rebondissement possible. C'est quand même à la base un fiasco judiciaire, un juge qui à l'époque était seul dans son coin, qui avait sans doute pas les moyens. Ça traite de beaucoup de choses quand même sur la justice, sur ce type d'enquête, et puis au final on pense. On doit aussi toujours à chaque fois penser aux victimes, à la victime en l'occurrence, ce petit Grégory qui n'a rien demandé, lui, et qui est mort. Et on n'a toujours pas, autant d'années après, de réponse. Donc c'est dramatique pour la famille, c'est dramatique pour ceux qui le connaissent. Et on ne sait pas effectivement où on va aller, mais je pense que ça touche tous les Français, parce que depuis, voilà, on a envie qu'à un moment donné... Bah, et puis peut-être celui qui sait ou celle qui sait, puisqu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, bah, peut-être que lui, il peut encore dire des choses.
Oui, on a envie, c'est même pas une question d'envie, c'est une nécessité. La justice doit passer. Alors après, c'est vrai que c'est long, c'est infernalement long, et c'est insupportable pour tout le monde. Parce que quand on est pris par la justice, quand on est innocent, ce qui est le statut pour la plupart des gens, on n'a pas affaire à la justice. Par contre, dès qu'on a affaire à la justice, dans ce type d'affaires, on est soit mis en examen, soit on est condamné. Et le fait, ou en tout cas, mais on reste présumé innocent. Et le simple présomption d'innocence est un statut très 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 difficile à porter. Parce que dès qu'en plus vous avez un bout d'exposition médiatique, on l'a vu avec plein d'affaires, y compris qui touchent la classe politique, y compris avec les affaires de harcèlement sexuel, etc. Dès que vous avez cette étiquette de présumé innocent, mais même si on ne sait pas ce qui peut vous arriver par la suite, vous êtes lâché au chien. Alors quand ça dure, en plus comme ça, là c'est une affaire qui est infernale. Qu'est-ce que c'est Muriel Boll? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Est-ce que les gendarmes ont trop insisté pour leur faire parler? C'est vrai que 34 ans après, vous avez une espèce de truc invraisemblable. Mais comment on sort de ça? Comment on sort de ça? Est-ce qu'on peut dire tout d'un coup, il y a un délai de prescription au-delà de 30 ans, laisse tomber, la justice, il y a un petit garçon qui est mort, quoi. Voilà. Alors est-ce qu'il faudrait imaginer une espèce de jury citoyen qui, en dehors des magistrats, examinerait l'affaire pour essayer de dire, bon, est-ce que finalement, au vu de ce qu'il y a dans le dossier, ça vaut vraiment le coup de continuer éternellement comme ça, ou est-ce qu'il faut à un moment donné décider sans remettre au bon sens populaire et dire, bon, c'est trop tard, c'est fini, on ne fera jamais justice, et puis on laisse tomber parce que je sais pas. Et en tout cas, c'est cette espèce de statut de présumé innocent quand il vous tombe dessus. Même si vous n'avez rien fait, mais en tout cas vous êtes engagé dans quelque chose, c'est une vraie réflexion qu'il faudra ouvrir parce que la machine médiatico-judiciaire derrière, elle gâche des vies entières et souvent pour parfois des gens qui n'ont absolument rien fait, rien mérité.
Jean-Luc Manot.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que la justice, en fait, ça sert à trouver les responsables, les coupables et à les sanctionner. De ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'un jour il y ait une sanction. Compte de l'âge qui s'avance, etc., des gens qui disparaissent. Mais ça sert aussi à dire la vérité. À faire connaître la vérité en démocratie, faire connaître la vérité, c'est important. Et cette tâche-là, on peut pas considérer qu'on pourrait aujourd'hui s'en exonérer parce que c'est long, parce que c'est lassant, parce qu'on trouve pas, etc. Donc le devoir est de continuer à travailler. La deuxième remarque que je voulais faire sur la journée, moi, c'est que j'ai été très dubitatif sur savoir ce qu'il fallait que je pense de mon pays. En ayant appris qu'on annulait une pièce essentielle de la procédure plus de 30 ans après.
Oui.
Et j'étais pris entre les deux, c'est-à-dire est-ce que je dois prendre en compte le fiasco énorme de l'enquête et de la justice, parce que c'est ça, ou est-ce que je dois me dire formidable, je suis dans un pays où même 30 ans après, des arguments de droit peuvent prévaloir dans une procédure judiciaire. J'ai pas fait la synthèse de ça, vous avez compris qu'en le disant, j'ai une petite tendance à considérer que c'est mieux un pays où même 30 ans après on peut faire un acte de justice de droit, tout en souhaitant que si c'est possible que ça arrive plus vite dans les procédures, c'est mieux quand même.
Isabelle, ça porte pas.
Mais au fait, moi aussi, j'ai grandi avec cette affaire Grégory, et en fait, j'ai pas envie d'avoir un regard presque sur la justice ou sur, mais plus sur les faits divers. Qu'est-ce que ça raconte de nous, tous ces faits divers? Pourquoi ce fait divers-là particulièrement, il nous fascine depuis autant de temps? Moi, j'étais mon premier patron de presse, c'était Jean-François Kahn, et il disait en fait, il y a toujours eu cette fascination pour les faits divers. Et là, c'est vraiment, il y a tout. C'est-à-dire, c'est l'infanticide, il y a le chantage, il y a les querelles familiales, il y a cette espèce de huis clos complètement hallucinant. Et je pense qu'en fait, ça raconte ça aussi. C'est-à-dire, ça raconte toutes nos angoisses. Là, il y a eu récemment cette petite fille découverte dans le coffre. Avant, il y a eu la femme, c'était l'épouse Courgeot qui congelait ses enfants. Je pense qu'à chaque fois, ça ne raconte que ça. Ça ne raconte nos angoisses. Ça raconte ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire la perte d'un enfant. Savoir que, sans
notre
doute...
Notre
côté sombre. Est-ce que la famille est mêlée, pas mêlée? Et c'est vrai que là, vous avez raison sur cette annulation de cette pièce essentielle. C'est en fait, on a l'impression, on demande à la justice de se ressaisir de quelque chose qui est presque de l'irrationnel total là. Et en fait, je pense que là où vous avez raison, c'est que ça ne sera sans doute jamais résolu. Voilà.
Isabelle Saporta, Jean-Luc Manot, Alexandre Malafaï et Didier Testo refont le monde jusqu'à 20h. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Jean-Luc Manot, Alexandre Malafaï, Didier Testo, Isabelle Saporta, encore 5 minutes pour refaire le monde en ce vendredi soir et consacrer tout cela au blues des maires de notre pays. Il y a un maire sur deux qui prévoit de ne pas se représenter aux prochaines municipales en 2020. Un maire sur deux.
C'est dément.
Isabelle Saporta.
Non, c'est dément. Et voyant ce blues qui fait Macron, là encore, il dit je n'irai pas à l'Assemblée Générale des Maires de France, mais je vais les convoquer à l'Élysée. C'est-à-dire que vraiment, quand t'entends les maires qui sont les personnages les plus dévoués à leurs concitoyens, qui te disent j'en peux plus, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dépossédés par les agglomérations de communes et que finalement, on n'a plus les moyens. Sauf que c'est nous qui sommes en interface directe avec les citoyens. Donc, il y a une violence à laquelle on n'était pas habitué jusque-là, une espèce de consumérisme, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et en plus, on est impuissant. Ils disent on n'en peut plus, et là, on a Macron depuis son porte-avions ou presque, qui dit non mais moi j'irai pas chez vous les
mais
mecs,
il a peut-être pas envie d'être sifflé
venez au palais. Ouais. Non mais ça raconte aussi la France centralisatrice, la France qui est incapable une fois de reconnaître que un peu se pencher vers les communes rurales, ça vaudrait le coup. Donc voilà, vous m'avez dit faire quoi.
Moi je pense justement qu'il faut distinguer les communes rurales des autres communes, parce que quand vous regardez les maires, si vous regardez bien les maires dans
non,
les
on
petites
parle
communes,
pas d'Anne Hidalgo, on est d'accord.
Mais non mais même d'autres, c'est-à-dire que dans les communes rurales c'est difficile, il y a les communautés de communes, il faut effectivement vous êtes corvéable à merci pour tel ou tel sujet.
Et puis les communes, c'est le bureau des pleurs.
Et puis, vous avez de l'autre côté, vous avez les maires qui, eux, veulent rester. Parce qu'on a parlé, vous avez parlé sur cette antenne des logements insalubres à Marseille. Ça fait quand même, il est quand même là depuis 95. Vous avez vu que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il est revenu à Lyon. Donc, il y a ces grandes métropoles où là, effectivement, visiblement, c'est un métier assez passionnant et vous gérez des fois plus qu'une PME. Dans certains, si on prend Paris, c'est plus qu'une PME, largement. Il y a des budgets de plusieurs milliards.
Il y a des baronnies,
Et vous avez
en fait,
effectivement je pense qu'il y a un vrai sujet aussi d'organisation, c'est-à-dire que le maire tout seul, est-ce qu'aujourd'hui il ne devrait pas y avoir des regroupements de communes, mais intelligents, parce que le maire il prend tout sur le dos, clairement, c'est un métier, enfin, qui a envie aujourd'hui d'avoir les citoyens qui demandent, et en plus il a des tas de contraintes, et lui-même avec l'administration, on revient à l'administration, faites un jour construire une maison, vous verrez que vous n'avez même pas le droit de choisir la couleur de votre maison.
Jean-Luc Manot, c'est une vocation d'être maire, hein.
Oui, c'est une vocation et c'est formidablement utile à notre vie démocratique, parce que la cité, qu'elle soit grande ou petite, c'est le premier droit, c'est le droit de cité, c'est le droit de faire société ensemble. Et c'est vrai qu'ils vivent, pour la plupart d'entre eux, quand ils n'ont pas des grosses équipes dans des grosses structures, ils vivent quelque chose de très difficile. J'étais frappé, j'écoutais un formidable reportage ce matin sur cette antenne. On expliquait que le maire, il était appelé, qu'il y avait des puces dans le quartier, et qu'il arrivait avec sa sulfateuse. Bon, on voit bien que là, c'est une vie qui devient une vie impossible. Et elle est, je pense, moins le fait de la baisse des dotations, etc., ça complique le jeu dans certains endroits, l'organisation des agglomérations sans doute pour les petites, mais enfin c'est quand même mieux que ça existe et que ça se regroupe, les agglomérations, quand même, ça permet de mutualiser beaucoup de choses, mais c'est surtout le fait que l'exigence des citoyens et la responsabilisation des maires qui fait que, voilà, un maire il y a 50 ans, c'était la personne incontournable dans la ville. Aujourd'hui, si un poteau de basket tombe et tombe sur le type qui passe à côté, le maire risque la prison. Et c'est vrai que donc, dans une certaine mesure, je trouve que leur attitude, leur présence sur le terrain est assez héroïque. Moi.
Alexandre Malafaye.
Bah, sur le Charles de Gaulle, le président de la République disait que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent être écoutés et respectés. Les maires, ce sont des gens, et notamment les maires des petites communes. Est-ce qu'ils ont été respectés, écoutés ? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir écouté et respecté depuis un certain temps, en tout cas ? Non. Et alors, il faut regarder très clairement l'analyse de ce baromètre, en fait, ce sondage, parce que c'est quand même 5000 maires qui ont qui ont répondu. Les chiffres sont intéressants, il faut vraiment rentrer dans le détail. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'en fait, qu'il y ait un maire sur deux qui dise des petites communes, notamment 55%, je veux plus y aller. Oui. Il y a une espèce de renoncement. Alors que ce sont des gens qui sont engagés, qui ont fait ça souvent par vocation, par conviction, par esprit de service, et qui tout d'un coup jettent l'éponge, et avec en masse, quoi. Et comme si tout d'un coup le repli sur soi, l'individualisme, vraiment c'est le truc qu'il fallait faire parce qu'en fait on n'en peut plus, quoi. Parce que le système tourne pas rond, parce que ça va de plus en plus mal, c'est de plus en plus compliqué, on comprend plus, on n'a pas de sens. Mais beaucoup de gens se retrouvent dans cette même situation, dans leur job, dans leur quotidien. Quand on parle de burn-out, c'est qu'à un moment donné, on est pris d'une espèce de stress, de contrainte infernale où on ne voit plus d'avenir, on est complètement dans la nasse, et puis on craque, quoi. Et ces maires, qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs ? Ils disent, on veut retrouver une vie de famille, on veut retrouver un espace pour éviter de se retrouver mis en examen parce qu'un panneau de basket est tombé. Voilà, ça en dit très long sur le malaise profond qui est dans la société, et je serais pas surpris qu'il y ait des maires avec des gilets rouges ou des bonnets verts demain.
On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. On refera le monde dès lundi avec Marc-Olivier Fogiel. Jean-Luc Manot était avec nous ce soir, conseiller en communication. Alexandre Malafaye, président de Sinopia, qui vient d'être lauréat du Forum de Paris sur la paix.
Absolument.
Wow.
Bravo. Didier Testot, fondateur du site La Bourse et la Vie, et Isabelle Saporta, chroniqueuse à RTL. 7h10, lundi matin.
C'est comme ça.
Beau week-end, c'est parfait. Dans un instant, le ballon rond, les bleus chez les oranges. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.